Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Park qu'on va peut-être enfin finir par mettre dans la boîte. Si j'arrête de me planter sur les introductions, ce serait une meilleure chose,
non ?
On
va y arriver.
On va y arriver. Eh bien, aujourd'hui, vous le remarquez, on est sur un plateau un peu particulier, un peu différent d'habitude. Mais on retrouve le bon Val. Bonjour Val.
Bonjour.
Voilà, le bon Max également est là.
Hello tout le monde.
Et également avec nous, Jonathan aujourd'hui.
Bonjour à tous.
Bonjour, bonjour. Et aujourd'hui, en fait, ce qui va se passer, c'est que... Pourquoi est-ce qu'on a ce setup un peu particulier ? Bah parce qu'on va attaquer une nouvelle petite série sur les parcs asiatiques. Parce qu'il s'avère que, bon, tout le monde, sauf moi, ici présent, a pu aller visiter justement des parcs là-bas. Japon, Hong Kong, Shanghai, enfin, toutes ces différentes destinations.
C'est très loin.
Ça fait loin pour le coup. Et justement, bah, on s'est dit, voilà, vu qu'on est en plein hivernage, qu'on se fait bien chier, eh bah, autant voyager un petit peu. Et aller parler un petit peu de ces parcs qui sont à l'autre bout de la planète pour nous. Et aujourd'hui, on va commencer avec Hong Kong Disneyland,
Dont d'ailleurs les deux loustiques avec nous. Vous avez fait un petit voyage là-bas en septembre dernier, octobre ?
Exactement,
septembre 2023 donc.
Ok, parce que moi la dernière fois que j'y suis allé c'était 2014, en automne aussi. Donc bon, je suis un peu rouillé. Déjà le château n'avait pas la même gueule. Parce que si vous regardez la version illustrée, vous avez une belle photo de moi, on se moque pas du look, s'il vous plaît, merci. Avec un château minuscule.
Moquez-vous du look dans les commentaires,
non,
ça fera du référencement.
Non, c'est pas... Oui, ok, là c'est bon, il n'y a pas de problème.
Mais voilà, il y avait quand même des petits drapeaux, des fanions un peu bleu, blanc, rouge pour le coup.
Ouais, bah, on...
Alors, c'est plutôt bleu, jaune, rouge, c'est plutôt roumain là les drapeaux.
Ouais, mais bon,
oh là là, le Bermuda, chemise, manche longue, replié sur
le fameux, le fameux combo gagnant.
Et la picole déjà, non même pas, c'est des softs, vous en faites pas.
Bah oui, c'est Disneyland.
Donc on va commencer par faire un tour de la destination complète par les hôtels, hein, brièvement, mais oui. Parce que ça vaut quand même le coup d'œil.
C'est partie de l'expérience. Malgré tout du site, donc
déjà oui, on peut déjà parler de la zone où ça se trouve. On est sur une presqu'île dans la baie de Hong Kong qui est complètement pleine de végétation, avec surtout le parc qui lui a un arrière-plan avec grosses collines complètement recouvertes de verdure, de jungle. Ah, attention à des grosses bestioles dedans, des grosses araignées énormes, c'est normal dans le coin là-bas à Hong Kong, mais du coup le parc normalement ça va.
C'est bien, ils ont pas eu besoin d'attendre l'extension Marvel pour avoir déjà des contenus Spider-Man, quoi.
Non,
c'est ce que je dis. Par contre en vrai oui, c'est vrai que ce que tu dis à propos des collines, c'est un des points sur lesquels justement on arrivait au moins en 2014 à différencier le parc de Hong Kong de celui de Californie. Parce que vu que le château était le même, quand on voyait la photo du château, parfois c'est en voyant les collines derrière qu'on arrive à se dire non, ça c'est Hong Kong.
Et là t'es vraiment dans un cocon
de verdure, c'est très cosy,
t'es ailleurs, t'es vraiment ailleurs. C'est un des rares parcs où j'ai eu cette sensation là.
Ah oui, complètement. Oui, c'est ça, ça fait un cocon, c'est cosy. Quand tu es dedans, en fait, ça fait un petit havre de paix, mine de rien. Et quand tu sors de la mégalopole qui est Hong Kong après plusieurs jours et que t'arrives là, tu souffles littéralement en réalité. C'est très très bien fait.
D'ailleurs, pour y aller depuis Hong Kong, c'est quoi ? C'est donc la ligne de train, c'est...
Alors,
ça ?
Alors, t'as une ligne de train...
Cette transition, Max.
Ouais, exactement.
T'as vu cette transition quand même, voilà.
En fait, t'as plusieurs lignes. T'as des lignes express qui mènent jusqu'à l'aéroport. Et en fait, il y a une ligne qui est plutôt omnibus, qu'il faut prendre en réalité. Et du coup, qui te permet d'arriver sur une gare. Et cette gare-là a une ligne unique avec une station qui est Hong Kong Disneyland.
Ah ouais, quand même, c'est vraiment spécialisé pour
c'est
le
ça.
Parc. Quoi.
Il y a une station, un train automatique et terminaux.
Il y a aussi des donc une gare routière, tu peux être déposé en bus. Et à Hong Kong, c'est... Alors,
il
faut savoir que...
Il y a très peu de voitures. Donc
voilà, il y a très peu de voitures, mais il y a quand même pas mal de taxis.
Oui.
Et en taxi, c'est pas excessivement cher, parce que du centre-ville, c'est 200 Hong Kong dollars, à diviser par 4 si vous êtes 4 dans le taxi, parce que le mec, il est OK hein, pour qu'on soit 3 derrière et 1 devant à Hong Kong, c'est un peu à la cool bonne franquette.
C'est une course. Hein,
voilà,
c'est...
avec les 4 valoches qui débordent et le tendeur qui tient le coffre, ça c'est bon. Donc 200 Hong Kong dollars, sachant que 10 Hong Kong dollars égale 1 euro. Donc, en gros, ça revient à 20 balles
euros,
divisé par 4.
Personnes,
donc, c'est vraiment rien.
Mais les taxis sont énormément utilisés parce que nous-mêmes, quand on allait dans visiter les hôtels, on voyait beaucoup de taxis arriver et déposer les gens.
Nous, on a fait que ça à Hong Kong.
Et même quand tu regardes par vue satellite le parking visiteur, ils ont tout de suite compris que les gens, de toute façon, n'utiliseraient pas la voiture pour y aller. Donc, il était bien pensé pour ça. Et notamment le train, parce que même le train, il est très custom. Il y a statuettes, il y a des oreilles de Mickey en vitre et tout ça. Ça
oh, fait, c'est beau.
Ça ressemble quand même à Tokyo
Disneyland. Au monorail de Tokyo, dans l'esprit.
Dans l'esprit, on y retrouve.
C'est vrai que ça fait un peu le monorail qu'ils n'ont pas habituellement. Quoi. Là, ça fait,
c'est ça. Et la gare, par contre, elle est magnifique.
Elle est très très belle. J'avoue, j'ai pas pris le train, moi, à l'époque.
Et c'est géré par les transports publics de Hong Kong.
Oui.
C'est-à-dire que les transports publics de Hong Kong ont quand même sorti un train Témé.
Avec une gare Témé. Et quand nous, on y est allé et quand sur le départ pour aller à Shanghai, les architectes étaient présents avec des livres de dessin pour savoir comment rénover en remettant les éléments thématiques.
Trop bien.
Donc là, tu dis, ah ouais, après Covid, ils sont déjà en train de penser à la rénovation de la gare.
Alors que nous, on n'a même pas une avenue au nom de Mickey ou une connerie comme ça, tu vois.
Ah bah non, vu le passif politique du coin, non.
Vu nous ce qu'elle ressemble, la gare, enfin bref, elle ressemble à rien. Et, mais du coup, oui.
C'est une gare utilitaire chez nous. Hein.
C'est littéralement utilitaire. Voilà, et du coup, elle est thématisée, elle a de la musique Disney diffusée, on a vu de la Fantillusion aussi à un moment. Franchement, cosy, toute mignonne. Et du coup, quand on est sorti de la gare, on est allé vers la gare routière pour prendre le bus qui nous amène directement à notre hôtel. Et alors là, par contre, on sent que le Covid est passé parce qu'il y a beaucoup de bus qui sont stationnés ici et là. Il y a même des bus qui poireautent littéralement.
Ah ouais,
qui,
ah la vache,
qui meurent en plein cagnard sous les arbres avec la végétation qui dégouline dessus. Enfin bref, c'est quelque chose.
C'est sympa, le concept de faire de l'urbex en bus.
Mais oui. Bon, oui.
C'est un cimetière de bus, en fait. Il y a un cimetière de bus et on sent que le Covid est passé par là. Ça n'a pas repris. Totalement.
Il y a beaucoup d'activités qui sont arrêtées.
Je veux pas faire dans le cliché, mais c'est vrai que mine de rien, en Chine particulièrement, en tout cas les pays, ce pays-là est connu pour son côté justement d'avoir quelques endroits où t'as des bons cimetières justement à parc automobile. Quand on va changer de subvention, de système politique ou quoi que ce soit, on laisse tout de côté.
Par contre, abandonner.
Là, c'est pas ça, mais c'est dans le même esprit, quoi.
Différent. Après, j'ai envie de te dire, même à Disneyland Paris, quand tu voyais les bus, les tours opérateurs de bus qui emmenaient les gens à Disneyland Paris avant Covid et maintenant. Avant, tu avais une trentaine de bus sur le parking visiteur. Maintenant, si tu en as 5, tu es heureux, quoi. Donc, il y a aussi le modèle économique qui a pas mal changé parce que aussi les parcs ont pas mal augmenté leur prix. Ouais. Donc, il faut aussi que ces tours opérateurs s'y retrouvent et que ça justifie de passer par eux. Et c'est plus forcément le cas. Donc, mais là, on sent que Hong Kong, c'était très difficile parce que nous-mêmes, quand on est arrivés, jusqu'au mois précédent de notre arrivée, le parc était quand même fermé 2 jours par semaine.
Alors qu'aujourd'hui, il y a toujours de la fermeture.
Aujourd'hui, c'est le mercredi.
Mercredi uniquement.
Uniquement le mercredi.
C'est quand même chaud, un parc Disney qui ferme périodiquement comme ça.
Avant, c'était le mardi, jeudi. Maintenant, ils n'ont passé qu'au mercredi la fermeture.
En soi, chaud, oui et non, parce que ça prouve aussi que c'est une gestion qui est réaliste par rapport à la réalité du marché là-bas, quoi. C'est tout. Donc,
sachant qu'à cette période-là, l'automne, déjà de base, c'est assez vide, même en week-end. Alors en semaine, j'ose même pas imaginer.
Ils ont quand même ouvert avec quand même un jour de fermeture avec un nouveau land qui est arrivé. Hein.
Ouais.
Avec Frozen, donc
c'était calme.
Mais disons qu'ensuite, par exemple,
pas à l'ouverture.
Pas à l'ouverture, c'était pas.
Oui, bah ça est en toute logique. Avant l'ouverture, c'est à mon avis, ça peut être vraiment tranquille.
On aurait pu s'attendre que les 2 mois qui suivaient l'ouverture, ça soit ouvert 100%, au moins avant de rebasculer éventuellement sur un modèle avec une journée de fermeture, mais ça n'a pas été le cas. Et même eux, ils le disaient, ils veulent recruter, ils avaient beaucoup de mal à recruter des personnes pour le parc. Et pourtant, c'est pas Disneyland Paris, c'est un parc beaucoup plus petit. Donc, malgré tout, on prend le bus et on arrive à notre hôtel qui est l'Explorer Lodge, qui est...
Le haut, la gueule, hein,
plutôt. Qui est un Disney Animal Kingdom Lodge-like, sans les animaux. Donc, on a vraiment plutôt
c'est un copier-coller.
On retrouve vraiment l'esprit de l'établissement, avec un pont qui traverse le lobby, où on peut avoir une vue même depuis celui-ci. On a des mâles partout, des mâles qui, quand elles sont ouvertes, ce sont des canapés.
Et où sont les femelles? Ah, des mâles, d'accord.
Non. Oh, oui, qu'il n'y a pas d'animaux, Val. Suis un peu, s'il te plaît. Et du coup, comment on fait pour coïter dans cet hôtel, s'il n'y a pas
l'abri des regards, s'il te plaît.
Ah bah, s'il vous plaît.
Merci.
Oui. Mais bon, en tout cas, ouais, non, mais là, de ce que l'on voit, effectivement, les choix, bah ensuite tu me dis, ou tu disais, oui, c'est un copier-coller de...
Ah, c'est littéralement un copier-coller. Pour avoir fait les deux,
dans l'agencement,
c'est littéralement.
C'est littéralement même. Mais après, bien entendu, le thème a été réadapté à celui-ci. Tu retrouves pas le côté africain de...
Plus aventure, c'est plus aventure, Indonésie. Il y a un peu d'Afrique dedans. C'est vraiment un mix, mais plus axé sur l'Asie en général, j'ai l'impression.
C'est ça.
C'est très joli. Hein.
Franchement, ça rend bien.
Et du coup, quand tu visites l'hôtel, tu as aussi le Mickey qui est disponible à la photo au niveau de la piscine. C'est dans sa
costume.
Tenue de l'hôtel. Donc, ouais. Et tu vois. Ça, c'est quelque chose que je savais, j'ai fait Ah bon ? À Paris, j'ai pas vu ça.
Vous faites ça ? Ah bon ?
Et le Mickey, il s'ennuie. Hein. Il nous attend littéralement.
Ah oui, littéralement.
Littéralement, il nous attend.
Il arrive, il vous a coursé pendant deux heures
ce
après.
Qui n'est pas possible, ce qui n'est pas possible aux États-Unis ou en France. C'est avoir un personnage comme ça qui s'emmerde et qui attend les gens, c'est extrêmement rare. Donc ça prouve à quel point la destination, justement, elle est calme.
C'est ça, elle est calme. Aussi. En plus, cet hôtel donne sur un lac. Donc entre l'hôtel.
Sur un lac, non, il donne sur
la baie de Hong Kong.
La baie de Hong Kong, pardon, la baie de Hong Kong.
C'est un gros lac,
c'est un gros lac
qui fait
oui.
toute la terre.
Oui,
c'est ça. Sur la baie de Hong Kong. Bon. Et il y a une piscine qui est quand même magnifique. Faut le souligner.
Ouais, la piscine, elle est très belle. Est et même la piscine. Fait intéressant, c'est qu'elle est. On a toujours le pied parce que les Chinois nagent pas forcément.
Oui, alors de base en Asie, voilà. Ils ont une taille moyenne qui est inférieure à celle américaine, européenne. Donc apparemment, on a toujours pied. Et je confirme parce que moi j'avais dormi au Hollywood, dont on parlera plus tard, et c'était pareil. Ouais.
Les Asiatiques ne savent pas beaucoup nager. Ils mettent même à disposition des gilets de sauvetage taille adulte, tellement ils ne savent pas nager du tout. Ils sont pas à l'aise dans l'eau. Ouais. Donc partout, tu as pied.
C'est ça. Et du coup, dans l'établissement, vous avez le hall au rez-de-chaussée. Et au moins un, vous avez les hôtels, les restaurants.
Les restaurants.
Vous avez un comptoir et deux restaurants. Généralement, c'est un qui est plutôt buffet et un qui est plutôt service à table. Et la disposition, elle est bien faite parce que le comptoir, en fait, il est au centre des deux. Il donne sur un espace ouvert où on peut s'asseoir. Et on a le choix sur à peu près tout. Il y a des gâteaux qui sont exposés pour donner envie.
Tu veux dire qu'il y a un petit côté food court ?
Oui, mais pas tout le temps ouvert.
Ok.
Ce qui est déroutant, quand même, pour le dire. C'est le matin et le midi, et pas le soir.
Ça ferme à 17h. Ça ferme à 17h. C'est-à-dire qu'à 17h, il ne reste que les restaurants service à table.
Oh la vache.
Ou le room service, je suppose, peut-être.
Ou le room service.
Ou le room service.
Ouais. Cela dit, oui, comme on dit, par rapport aussi à la fermeture hebdomadaire, une journée, là, pareil, du coup, il y a un shift qui est couvert pour assurer de telle heure à telle heure. Peut-être les petits déj et le midi.
Oui, mais c'est bâtard parce que le soir, t'as pas de Disney Village.
T'as pas de Disney Village et t'es au milieu de nulle part. Donc en fait, tu es coincé.
T'as pas de restaurant accessible.
Faut manger dans le parc, quoi, avant que ça ferme.
Oui, mais nous, on est arrivé en plan journée. Le parc, c'était le lendemain.
Ouais.
Du coup, en fait, on avait toute l'après-midi pour nous. On s'est dit, bon, le midi, on se fait un buffet et le soir, on se fera le food court.
Vous avez tourné sur le buffet de la journée, voilà.
Vous avez pris quoi alors
On a fait room service. Parce qu'il était hors de question de payer autant pour le restaurant de service à table.
C'était bon ou moins ?
C'était très bon.
Okay.
Très
bon. Bon, bah,
et de toute façon, on va en venir plus tard. Et du coup, comme vous pouvez voir, les restaurants, ils sont vraiment bien faits. C'est travaillé, quoi. C'est fait avec goût. L'hôtel il est vraiment superbe.
Bah franchement, j'aime beaucoup les volumes qu'ils ont, l'exploitation des volumes dans ce que je vois là depuis tout à l'heure, c'est vraiment pas mal du tout. Hein.
Et après le truc qui fait peur, c'est quand tu rentres en boutique, c'est De Finlande.
Ah ouais, c'est
là,
ça cartonne.
Dis, bienvenue en Asie, en effet.
Les Asiatiques, ouais.
De filles,
ses copains. Nous, c'est Stitch.
De filles, ses copains. Et comment ça s'appelle les petites peluches de merdouille qui s'empilent ? Les Tsum Tsum. Les Tsum Tsum est équivalent. C'est-à-dire qu'ils cherchent toujours quel sera le prochain Tsum Tsum. Donc ils passent leur temps.
Maintenant, les Tsum Tsum.
Ah, j'espère. Mais il y a beaucoup de trucs très cute, alors que ce soit Hong Kong, Japon ou Chine. Et c'est valable donc à la fois dans les boutiques en merch mais aussi dans la bouffe. Il y a énormément de bouffe saisonnière ou de personnages, etc. Donc quand t'achètes ta bouffe, t'achètes vraiment aussi du Disney dedans. C'est pas comme chez nous, vraiment t'as un truc un peu basique, un peu healthy, tout ça. Bah là-bas, c'est vraiment, faut qu'il y ait des personnages dans ton assiette.
D'accord, mais ça, si tu veux dire, en fait, c'est vraiment généralisé sur tout. C'est pas genre un item de signature food sur le restaurant qui aurait ça.
Chaque resto a sa propre signature.
C'est vraiment partout, quoi.
Et en Asie, il y a énormément d'expériences comme ça, même en dehors des parcs Disney.
Et quand tu vois ça, tu dis, mais pourquoi eux ils ont ça et nous ça devrait. Bref. Donc,
Max, je te propose. Ils ont ça et nous, on a.
Mais. Je propose un truc simple. C'est qu'on va tous enregistrer une réplique où on fait tous. Mais pourquoi ils ont ça? Et comme ça, après, on coupe et on va le remettre à chaque fois parce que sinon, ça va être chiant. Tu vois, Mais ouais, non, effectivement, le merch est déjà vachement plus développé.
Il est sympa. Après, on a remarqué un truc, c'est que globalement, le merchandise de Hong Kong Disneyland, à part deux gourdes et un jersey qui est apparu quand nous on est arrivé, ils ont rien qui est estampillé au parc.
C'est de la licence.
C'est beaucoup de la licence Disney.
C'est du Disney,
mais en fait, c'est pas du Hong Kong Disneyland. Donc, Hong Kong Disneyland, ils ont très très peu de merch à eux. Par exemple, si tu veux un pins Hong Kong Disneyland, ça n'existe pas.
Donc ouais. En fait, en gros, grosso modo, leur merch, c'est plutôt du Disney Store Lake, quoi, en fait.
Exactement.
Oui. Parce que en 2000, ou alors du Duffy. Mais une fois de plus, on est sur du personnage plus que sur la destination.
C'est ça.
Et à l'époque, moi, je me souviens, il y avait quand même pas mal de merch. Moi, j'ai des t-shirts, j'ai un polo, un truc comme ça, Hong Kong Disneyland. Et en fait, ça se vendait pas, c'était en promo. Donc c'est pour ça qu'en plus moi ça m'arrangeait, mais maintenant ils ont compris qu'en fait ça servait à rien parce que les Asiates sont pas friands de merch, on va dire neutre. Hein, eux ils veulent acheter vraiment Mickey et ses potes, quoi.
C'est ça. Et on a aussi découvert.
C'est le même phénomène qui se passe à Tokyo d'ailleurs, même sur Tokyo Disney Sea, ou même
pire à Tokyo.
Oui, c'est encore plus poussé puisque là-bas enfin tout tourne autour des personnages carrément, quoi. Littéralement.
Toi t'étais au 13ème étage
là-bas. Non du tout.
Parce que t'as appuyé sur un bouton 13.
Non c'était le bouton 3, c'est pour aller en fait à l'étage pour avoir la vue sur le lobby. Et mais surtout, ce qui est très
l'ascenseur.
Le Mickey est pas caché sur la gauche, mais ouais, l'ascenseur est très beau.
Et surtout, t'as les personnages qui te disent les étages.
Au Japon, c'est pareil.
C'est même en Asie tout court. C'est, ouais. C'est comme ça.
C'est la base.
Et quand tu vois ça,
rez-de-chaussée, FDP.
Non mais
c'est vraiment ça.
Enfin, peut-être pas avec le FDP à la fin, mais bon.
ça c'est chez nous, ça va. Oui. Non mais tout est bien. Et t'as vu même le petit
ascenseur autiste.
Même le petit truc, attention, le sol glissant, il est thématisé.
Raccord avec les lampes, c'est des jumelles. Les lampes dans les couloirs, ce sont des jumelles qui éclairent le sol. Tu vois, c'est tout est penser et fait avec goût, c'est chaleureux, ça reste assez neutre quand même sur les murs.
Ouais, les couloirs ça reste un peu neutre, mais bon,
vois,
en fait,
ça va.
Tu vois,
c'est
les équipements techniques sont dans les frises colorées, ce qui fait que tu te rends pas compte que c'est une porte qui s'ouvre. C'est, tu vois, ça, c'est ce genre de détail où tu n'as pas à Paris, encore une fois.
Surtout pas si vous avez vu le live qu'on a fait sur le DLH.
Oui, voilà.
Voilà.
Mais
on peut le référencer, ce live, c'est bon pour la. Voilà, c'est...
Allez-y, vous allez halluciner, ça va être drôle.
Ouais, vous allez vous marrer aussi.
Moi, ça n'a pas été drôle, mais. Voilà. Mais on est du coup dans la chambre et la chambre pour le coup spacieuse. On retrouve les volumes américains et ça fait du bien quand tu es en Asie.
Alors avec un truc par contre, c'est que spacieuse aussi parce qu'il récupère l'espace de la salle de bain parce qu'il n'y a pas de cloison de séparation, j'ai l'impression.
Même s'il y aurait un mur, je veux dire, ça aurait été le même format que n'importe quelle chambre mais Disney classique.
OK.
C'est là ils ont cassé entre guillemets un code pour que ça soit marquant et que ça change des autres chambres. Donc
c'est propre.
La chambre elle est propre. Il y a des équipements qui sont aussi donnés, des équipements de soins, comme ces petites boîtes en alu.
Oh, celles qu'on voit à gauche là. Oui.
Exactement.
Ça tu peux les embarquer ça.
Ah bah tu penses bien qu'on les embarque.
Oh bien.
Et
contrairement aux lunettes qu'il y avait dans le Charles Lindbergh à Nouvelle-Zélande.
Je pensais qu'on peut les prendre. On a pu les embarquer, mais apparemment quelques coups de river ont été appliqués par la suite. Et donc apparemment c'était une feature que nous avons pu explorer, mais pas le reste.
Ouais c'est ça.
Les toilettes, bon après salle de bain.
Ouais, mais une vraie douche, c'est pas une baignoire.
Regarde, il y a du gel douche dans les bocaux. Il y a du vrai gel douche.
Il y a du vrai gel douche. Voilà.
Non, mais on le précise parce que c'est peut-être pas nécessairement un acquis dans les hôtels
Disney,
à Paris,
c'est pas évident qu'il y ait du gel douche.
On précise.
C'est
vrai que
c'est spacieux, la chambre, c'est bien.
Non, c'est bien.
C'est très spacieux, la vitre elle est immense, ça donne ça double le volume de l'espace. C'est bien pensé, c'est bien fait, c'est pas chargé, c'est fait avec goût.
Et surtout, ça reste des volumes simples.
Oui.
Ils n'ont pas été foutre une cassure dans le mur ou un truc comme ça. Ça reste un truc très basique, mais bien.
Le tabouret tam-tam, c'est incroyable. Bah, on retrouve un peu la vibe qu'on a eue au PAL, justement, au Savannah
Reserve. Ouais.
Reserve.
Tout à fait.
C'est très mignon. J'aime bien. C'est
et
pas
avec,
mal.
Et du coup, Mickey et Minnie au-dessus des deux lits.
En masque
africain, ou enfin, je sais pas.
Ouais. Ouais, exotique.
Inspiré, ouais.
Ouais, pour nous. C'est très mignon. Et voilà, là on a du mobilier custom, ce qu'on n'a pas à Paris.
Custom, on a des lampes custom.
Parce qu'on n'a plus à Paris.
Quelque chose qu'on attend quand on va dans un hôtel Disney, c'est qu'il sort, pareil, le linge de lit, il n'est pas standard, c'est pas du truc Elior. Enfin bref, c'est quelque chose qu'on attend quand on va dans un parc et dans un hôtel Disney.
La base.
Donc on va continuer. Et après avoir découvert cet hôtel, on s'est dit, bah tiens, on va aller au Disneyland Hotel après tout.
Pour voir à quoi ça ressemble.
Pour voir à quoi ça ressemble, le Disneyland Hotel.
Moi, je me souviens, dans mon souvenir, c'était comme un grand Floridian, mais en sous-dimensionné.
En
quoi.
Plus petit et moins détaillé.
Oui, un peu basique, mignon, tu vois, victorien, mais c'est vrai que
mais
c'est un peu trop
plus,
simple.
Quoi.
Ouais.
Ça, sans plus.
Alors, faut savoir quand même que c'est vraiment tout à côté. Le resort est très petit. Donc, du coup, ça se fait vraiment à pied. C'est vraiment, les hôtels sont collés les uns aux autres. En fait, ils sont les uns à côté des autres.
Le plus excentré, c'est le Hollywood.
C'est ça.
Ensuite, il doit avoir le nouveau.
C'est ça.
Et ensuite, tu finis par le Disneyland Hotel qui te donne.
Ouais,
voilà, c'est ça, je me souviens.
Et tu après le Disneyland Hotel.
Parce que moi, j'avais vu le début du chantier de l'Explorer, du coup.
Oui.
À l'époque. Oh là là, ça me rajeunit pas. Donc le Disneyland Hotel,
c'était il y a 10 ans. Hein.
Oui, c'est ça. Il y a 10 ans.
Et dire, d'ailleurs, on en reparlera, mais t'avais vu la Paint the Night ou pas? Parce qu'il me semble.
Non,
que,
enfin, non.
D'accord. On avait parlé.
En fait, en gros, je suis venu. Ça faisait un an que les Nouveaux Landes, dont on parlera plus tard, venaient d'ouvrir avec Mystic Manor, tout ça.
Ça marche. Ok. Avançons, mes amis. Donc, du coup, le DLH.
Donc, le DLH.
Ah, leur DLH.
Leur DLH à eux. Les extérieurs sont beaux avec un pseudo labyrinthe qui est plus décoratif qu'autre chose. Mais
oui, tu as les gamins qui courent dedans.
Oui,
fait
voilà. Mais on se rend très vite compte, en fait, quand tu regardes les façades, qu'il n'y a pas de volume, qu'il n'y a pas cette finesse de détail comme on peut avoir au Disneyland Hotel de Paris, par exemple.
Bah, il est simple, mais après, il n'est pas non plus dégueulasse. Attention.
Non, bien sûr. Mais du coup, ça perd un peu de son charme, et surtout avec cet ascenseur en plein milieu du lobby, c'est assez particulier.
Bah, c'est la même chose qu'au Grand Floridian, hein, quand tu y repenses. Mais, lobby du Grand Floridian, où tout est blanc, comme nous on était habitués au côté chaleureux de feu hôtel Disneyland chez nous, moi j'aime pas du tout cette ambiance, je la trouve trop... à la fois trop vieillotte,
chargée,
mais en étant super froid aussi en même temps, tu vois. C'est pas hyper chaleureux, quoique aussi au niveau de la moquette et des gros fauteuils etc en bas, mais c'est vrai que le plafond et les murs ça reste
très
clair.
Ils jouent pour apporter la chaleur sur les éclairages qui sont tous sur des teintes de blanc chaud. Le problème c'est que de jour tu ne les vois pas particulièrement, donc effectivement t'as juste une dominante bleutée.
De nuit c'est magnifique.
Oui, de nuit
c'est très beau parce que t'as tout le truc qui vire un peu à l'orangé.
C'est ça. Mais on est allé, on a vu la boutique, elle était pas fofolle. Ils ont converti un restaurant. On a un restaurant hyper moderne, contemporain. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Littéralement, tu ne comprends pas.
Ah.
Et quand on repartait, il y avait un orchestre au premier étage, parce qu'il y a un petit balcon en décroché, où tu as un orchestre qui peut du coup se poser là et jouer pour tout le lobby.
Et jouer quoi comme musique?
Mary Poppins.
Ok.
Ok.
Bon. Donc, pourquoi pas?
Non, franchement,
ouais, c'est bien, ça fait de l'atmosphère, c'est toujours bien.
C'est mignon, mais je pense que c'est pas le truc le plus dépaysant.
C'est pas... Pour le lieu, tu te dis, vous avez mis un Disneyland Hotel parce que il fallait
qu'il y ait un truc basique et efficace, signature.
Ça colle pas avec les lieux, et en fait, je pense pas que les gens attendent ça en réalité.
Mm. Ah, il pleuvait là, non?
En fait, on est arrivé après
la vidéo, il y a de la flotte partout. Ah, il pleut là.
Bah oui, bah, écoute. Merci,
en
Greg.
En fait, on est arrivé, pour la petite histoire, après le pire ouragan depuis 1880. Donc, en fait.
C'était le day two après l'ouragan. Oui. Donc. Partout, il y avait des feuilles, il y avait des branches arrachées, continuaient à tout débroussailler, nettoyer.
Voilà, donc estime-toi heureux si c'est une grosse averse comme ça.
Exactement.
Et pas juste l'ouragan.
Ouais, enfin, putain, typhon sur ta gueule. Quoi.
Ouais, nous, on est arrivé, on partait de Tokyo, on nous a dit, il y a un ouragan là-bas. On s'est dit, putain, mais est-ce qu'on va pouvoir y aller, atterrir? Enfin, et en fait, on est passé au-dessus de l'ouragan et on a atterri à Hong Kong alors qu'il nous juste de passer. Vraiment un coup de peau monumental.
Surtout que l'ouragan partait à Tokyo.
Exactement. Surtout. Donc, en fait, on a switché, tu vois.
Et le parc donc était fermé évidemment pendant cet ouragan et on est arrivé, il venait de rouvrir littéralement. Ce qui explique un petit peu quand vous voyez sur la vidéo un peu de feuilles partout, mais ils étaient en train d'entretenir
Et encore, c'est pas chaotique non plus.
Non,
hein.
C'est pas du tout chaotique. Tu sens qu'ils ont bien travaillé.
Ils ont enlevé le plus gros. Hein.
C'est ça. Et
j'ai cru avec le parapluie que tu fermais, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se cassait la gueule. J'ai eu peur.
L'hôtel sortait de réhab. Il a été refait.
Alors, je remarque pas beaucoup de différence. Je pense qu'ils ont dû peut-être...
Je pense que les luminaires et tout ça ont été
actualisés,
j'en sais rien.
Écoute, choque pas. Peut-être, oui, je vois, il y a beaucoup plus d'armatures brillantes, etc. Mais cet hôtel, je le trouve vachement beau. Il va vraiment à fond dans son thème. C'est-à-dire que t'as l'impression d'être dans un jukebox des années 20-30.
Bah là, ils l'ont un peu changé parce que ça fait un peu l'hôtel Marvel de Paris. Mm. avec un peu de Marvel, mais toujours du Disney et toujours du Pixar.
Oui, ok, je vois. Moi, il n'y avait pas de trucs comme ça, c'était plus des affiches de cinéma de vieux
voilà,
films classiques.
C'est ça, maintenant, ils ont apporté ces touches-là, un peu plus Marvel, Disney, de franchise.
Ça reste plus subtil quand même que chez nous.
Mais ça reste un mix, en fait, de toutes les IP Disney. Que juste en fait un truc ancien.
Pour être franc, l'extérieur, je suis pas trop fan de l'extérieur avec les choix de couleurs, mais c'est normal, c'est le style architectural qui veut ça. Mais l'intérieur, je trouve ça vraiment.
Par exemple, le bar a été rethématisé sur Marvel.
C'est l'archiviste, ouais. Du coup, et du coup, t'as plein de props.
Benji appréciera.
Props
au Marvel, c'est super cool.
Là,
un petit côté
ça,
Planète Hollywood, tu vois, dans l'exposition des props comme ça, mais c'est vraiment pas mal. Pour ceux qui n'ont pas les visuels sous les yeux, vous voyez l'entrée de California Adventure aujourd'hui ou de Hollywood Studios en Floride. C'est vraiment cette esthétique bleu chromé art déco mélangée et l'hôtel est comme ça partout.
À l'intérieur, c'est très très réussi.
Ouais.
Contrairement à notre New York, les matériaux sont de très grande qualité. C'est du marbre,
c'est
ça brille de
raffiné.
Partout.
Ouais.
Ouais, c'est très raffiné. C'est très beau.
Pour être franc avec toi, en plus, là, par exemple, on voit le bar qui est thématisé Avengers, univers Marvel.
Ah, c'est pas
bordel, il y a des références partout. Il y a des props partout, il y a des tas de trucs à voir.
Et malgré les couleurs froides, c'est super chaleureux.
Alors que nous, malheureusement, t'as les écrans qui sont au fond, qui font une baie vitrée où l'idée n'est pas mauvaise, mais bordel de merde, il n'y a rien d'autre, quoi.
Pas mauvaise, mais elle est nulle.
Elle est mal exécutée. Elle est mal exécutée.
Et ce qui est bien, c'est que toutes les références Disney épousent l'esthétique un peu années 20, 30.
Exactement.
Et ça, c'est vraiment beau, ça a été adapté.
Pour que ça colle. Bien entendu, t'es dans un hôtel à Hong Kong, du coup t'as un personnage qui se balade dans les allées, tu peux prendre en photo. Du coup là, t'as Minnie qui est avec la robe de l'hôtel. Enfin.
Mais il pleut dehors là, non ?
Il pleut toujours, bien sûr qu'il pleut. C'est propre de cet hôtel, voyons.
C'est très très beau. Et dehors, la piscine, elle est plutôt sympa parce que elle ressemble à un grand piano. Elle a la forme d'un piano et en fait bah là où il y a les touches dans le fond de la piscine les dessins font des touches et pour y accéder tu as un jukebox en entrée, tu as les chemins qui sont faits en pellicule de cinéma, enfin c'est le vinyle qui fait la place.
C'est magnifique,
c'est trop bien. Non, c'est la boîte de bobine ou un vinyle, je sais plus. Enfin bref, il y a plein de détails et dans le fond tu as des petites des lettres Hollywood Hotel pour faire ta photo devant sur un fond
et juste derrière en plus t'as un chemin avec des voitures.
Oui, à l'ancienne.
C'est très bien. Sachant que la piscine, on va le voir dans le film, en fait, elle est bourrée d'aliens. Ils ont mis plein de ballons aliens pour les enfants.
Oui.
C'est
des ballons aliens. Ah, tu veux dire aliens,
les aliens de Toy Story.
Ça, c'est le bassin pour les enfants.
Ouais, mais c'est le genre de petits détails qui font plaisir.
Ce petit truc-là, il est en vente à la boutique.
Ah, ouais, mais t'aurais pu le choper gratos, là.
Je pense que
tu le dégonfles, tu le mets dans ton slip. Ça te fait là. Monsieur, c'est quoi cette bosse? Bah écoutez, je suis heureux.
Mais surtout avec l'antenne de l'alien, pour peu que ça déborde bien du bon endroit, ça peut être parfait, quoi, tu vois.
Charmant,
adorable.
En tout cas, franchement, j'ai un très bon souvenir des chambres aussi. Elles étaient vachement belles. Toujours dans le style classique d'une chambre Disney, deux hôtels doubles.
Et puis, ne serait-ce que les fenêtres en forme de pellicule.
Bien sûr,
c'est très très beau.
Et du coup, on va commencer l'instant gros pour les hôtels.
Oui, parce que comme il pleuvait, on s'est arrêté pour manger évidemment.
Parce qu'on était affamés et on s'est dit, un petit buffet, c'est pas grand-chose.
C'est le moment de parler resto. C'est l'instant gros de Puissance Park.
Nous voilà donc dans le restaurant Ink and Plate. On a choisi ce restaurant parce qu'on avait faim et qu'on avait la flemme de changer d'hôtel. Mais ce fut
un choix. Donc en fait, c'était un choix par défaut qui s'est révélé être un très bon choix, quoi.
Exactement. Ce restaurant, il faut savoir qu'on l'a payé 65€ par personne.
C'est quand même pas mal. Hein.
Ce qui est un très gros prix quand même.
Oui, c'est à table ou c'est buffet, hein.
C'est un buffet à volonté.
Ok.
Okay, ouais.
Le style, du coup, c'est dessiner les personnages Disney. Du coup, il y a des assiettes avec comme les palettes de couleurs qu'on peut faire pour peindre, etc. Les couverts sont
un peu façon Animator's Palette.
Exactement.
Mais pas avec l'animation. L'animation en elle-même.
Il n'y a pas ces animations qui sont un peu assez vintage.
Tous ces chromes, la théma. Enfin, moi, j'adore ce style.
Le sol en marbre, enfin,
Multicolore, ouais.
C'est référence Mickey. Enfin bref, il y a tout le temps. Il y a des jus qui sont proposés. Donc il n'y a pas forcément à demander des boissons en supplément, mm-hmm. vu que tu as des différents jus. Et surtout, le buffet, il est hyper garni. Franchement, on était hyper choqués. Pour ça, on s'est dit 65 euros, mais avec tout ce qu'il y a, c'est de la folie furieuse. Pour vous décrire ça, on a du coup forcément des assortiments de salades. On a de la mozzarella, ce qui est assez rare. On a aussi des gâteaux avec des petits œufs.
Assez rare en Asie.
En Asie.
Oui.
Des moules, des crevettes, des bulots.
Ah putain, du fruit de mer donc.
Du fruit de mer.
Là-bas, c'est normal.
Okay. On a du coup des pizzas, bon. Les trucs mexicains.
Les faritas.
Faritas, avec tout le comptoir pour faire les choix.
Oh la vache.
On a toute une succession de viandes qui passent aussi bien du bœuf au je ne sais trop quoi avec des...
Du poulet à toutes les sauces.
Du poulet à toutes les sauces.
Ah ça va être génial.
Ça c'est sûr.
Ça.
Du saumon, bien entendu.
Ça fait un peu peur.
Et
du saumon, ok.
Oui, bah, après tout, il y a aussi ça. Il y a... Alors... En Asie, il y a toujours un comptoir avec de la nourriture hindoue.
Ah, c'est bien,
c'est
sympa.
C'est assez surprenant. Personnellement, je m'y attendais pas du tout. Et
qui était très très bonne.
Oui, alors là,
c'est quoi butter chicken, du tikka masala.
Exactement, les classiques. Okay. Hein, on change pas une équipe qui gagne.
Mais toujours efficace,
nanes,
quoi. Ouais.
Et il y a des nanes en plus.
Oh la vache.
Moi, j'ai faim. Quand est-ce qu'on mange?
On termine l'épisode d'abord.
D'accord, ok, merde.
Ah oui, mais là, en plus, ça, c'est truc au curry, ça, non, je pense.
C'était le butter chicken, ça.
Butter chicken, autant pour moi, ok.
Avec le
qui
va bien. Et ils ont aussi un choix énorme pour faire tous les bols de nouilles avec les condiments que tu peux mettre dedans. Mm. Vraiment des plats asiatiques.
C'est
là, on
incroyable.
A des canards on retrouve vraiment ça, des ribs que tu peux avoir à la couper en tranches.
Mais il y avait déjà eu un buffet de viande à côté.
Exactement. Non, mais, c'est pas fini.
Mais là, c'est le buffet de viande de la viande.
C'est la viande plutôt occidentale, en fait. Il
ouais.
hein, faut vraiment se penser à ça.
Ah,
t'as des raviolis. Il y a de tout. Il y a du bœuf avec une sauce un peu piquante.
Mais comment on fait pour tout manger?
On peut pas. Et regarde, là, t'as un comptoir japonais avec
des sushis, des makis.
Des sushis et aussi des tranches de sashimi.
Non, mais les sashimi, en plus, les sashimi, ils étaient comme ça.
Ce sont des obus.
C'est
vraiment littéralement des obus. Et du coup, on va enchaîner, parce que juste pour donner une idée des sashimi.
Ah oui, bordel de merde.
C'est, ils font 2 cm d'épaisseur au minimum. Enfin,
ah bah oui.
Les viandes, enfin, les entrées, tout est. On prenait juste des assiettes de viande pour prendre des échantillons pour goûter.
Bah oui.
Tu vois, c'est. Mais vraiment,
De base, les parcs asiatiques, ils ont souvent de la très très bonne bouffe, même les snacks. Alors, un buffet quali comme ça.
Et bah, 65 balles, à vrai dire, ça fait un peu cher. Faut y réfléchir avant d'entrer dedans. Mais par contre.
Quand on a vu ça et la diversité, on s'est dit. En fait, il y a une offre, un choix, une qualité qui est assez dingue. Et ça oui. nous a vraiment marqué.
C'est-à-dire que quand vous mettez ça en rapport avec les 100 euros du DLH, où il y a 3 fois moins de choix, bah en fait, il y a pas les
3 stands. Je crois que 3 fois moins de choix, t'es généreux.
Et 10 fois moins qualitatif.
Et 10 fois moins qualitatif.
Ouais. Là,
vous avez
quand
même les sashimi, vous avez moins d'originalité. Vous avez quand même. Ce que Maxence n'a pas montré, il y a aussi des distributeurs de glace à l'italienne.
Oui.
Oh là là.
Il y a plein de gâteaux qui sont très très bons.
Est-ce que tu as vraiment, des seringues d'insuline
oui, ça clairement.
Mais tu vois, t'as des fruits frais qui sont vraiment des vrais fruits découpés, pas le truc industriel que Disney nous sort constamment à Paris. Il y a des bonbons qui sont aussi fournis avec la glace, les assortiments de gâteaux.
Et des petites customisations à la Disney partout.
Ouais, voilà. Tout. Et t'as des gâteaux avec du coup des palettes de couleurs qui font référence forcément au restaurant. T'as des gâteaux qui sont multicolores sur le thème Pixar, parce qu'il faut aussi un peu de ça. Tu as absolument de tout. Et c'était bon. Franchement, t'avais des petits personnages qui étaient imprimés sur des chocolats. Bon, et bien détourés. Enfin,
le prix est relativement justifié. Après, ça m'étonne quand même, compte tenu du niveau de vie là-bas, que ce soit quand même si cher. C'est-à-dire aussi cher que chez nous.
Bah ouais, mais non, parce que là, tu es dans un hôtel, donc c'est pas les locaux qui vont aller
bien
non,
sûr. Exactement. Mais quand même.
Et pourtant, on a vu beaucoup de personnes venir pour faire un anniversaire et repartir.
Ensuite, pour l'événementiel, je crois que les Asiatiques ont dans leur culture justement le côté de vraiment investir pour la célébration. Donc,
et là, on a vraiment vu ça et on voyait que c'est des gens qui n'étaient pas dans l'hôtel et qui sont venus pour le restaurant, pour fêter un truc en famille, et voilà. Donc,
mais on ne sait pas du tout, sont-ils lésés par ces 65 euros?
Ah non, pas du tout.
Ces 65 euros, vraiment...
On s'est dit, c'était le plus bel investissement en termes de bouffe qu'on ait pu faire dans un parc Disney.
D'accord, ok.
Clairement.
Et
c'est un des plus beaux buffets qu'on ait fait dans
un
parc Disney.
C'est un prix légitime.
Oui, c'est ça. Franchement, et franchement, qu'on ait
sans,
eu la qualité.
Sans compter que tu as un effet gradation dans le buffet où on arrive, quand on le voyait dans la vidéo là que tu montrais, on arrive dans le buffet au tout début, on se dit bon, bah c'est un petit buffet, mais vu que ça continue derrière et que tu l'as pas
vu. En fait, le seul truc qui fait mal, c'est de te dire que tu peux pas tout manger.
C'est pour ça qu'on a fait des, on a fait des échantillons par assiette et qu'on avait notre table, elle avait 10 assiettes d'échantillons.
Mais après, tu pouvais plus bouger, comment vous avez fait pour aller sur les pâtes?
Non, mais quand on prend un échantillon, on coupait en deux et on se partageait. Enfin, je veux dire,
ouais,
on
mais va... bon, il y a tellement d'échantillons. C'est terrible, cette histoire.
Mais rien que les sashimi, mais je
suis bon, va falloir
la présence de sashimi du resto.
On sort du resto, on s'est baladé, on s'est beaucoup baladé. Du coup, on est rentré tard le soir.
Et c'est là qu'on a découvert que du coup, le food court était fermé.
Exactement.
Donc, on a pris en room service.
Mmh. Et alors
on avait pris du coup des
salade César,
une salade César avec des crevettes dedans qui sont énormes, ces crevettes.
Oh la vache,
ah ouais, c'est des grands bas là carrément.
Ainsi que des spaghettis avec des meatballs, donc des boules de viande.
Et ça, c'est dans la chambre là que tu manges?
Et du coup, on a été livré dans la chambre. Comment c'était? On livrait en éclat, même pas 5 minutes.
En 5 minutes, on a été livré. Après, on s'est installé dans le lobby de l'hôtel. Il y a un bar qui était fermé. Du coup, on s'est mis dans le bar du lobby de l'hôtel. Et on était très, très bien.
C'était juste pour nous. Enfin, franchement, on était bien.
C'était très, très bon.
Et c'était bon. Les quantités, elles sont... C'était des grosses barquettes.
C'est des gros doggy bags, mais pour pitbull, quoi.
Faut quand même le dire. L'assiette était à 20 euros pour les spaghettis. Et la salade, elle était à 16.
16 balles, putain la vache, c'est étonnant. Mais bon, après ça va, ça reste.
C'était ça ou se taper un restaurant à minimum 45 balles et on n'avait pas aimé ça, quoi.
Ouais.
Sachant que le midi on avait déjà fait le resto à 65.
Ouais.
Donc on a fait le moins pire, tu vois.
Voilà, la journée à 110 balles de bouffe.
Sachant que notre restaurant était relativement plein quand même.
Voilà. Et que vous aussi après le buffet du midi,
c'est
du coup.
C'est ça.
Mais bon, on se prend ces deux trucs là, on s'est moite-moite et ça ira. Mais franchement, on a très très bien mangé, le service était rapide. C'était très copieux, c'était de la qualité dedans. Littéralement, c'était de la qualité, et ça nous a choqué.
Donc payais, mais t'en avais pour ton argent.
Pour ton argent. À aucun moment, sauf dans les parcs, on s'est dit, ça ne colle pas avec ce qu'on a déboursé.
Mais ça, on en parlera tout à l'heure.
Et du coup, au petit matin, on se lève, on découvre les ballons qui sont en vente dans l'hôtel et sur le parc. Qui sont très cute et en 3D. Vraiment, pour le coup, on peut dire qu'ils sont en 3D. Et au petit matin, du coup, on peut choisir différents types de jus. On a du jus d'orange, on a aussi du jus de pastèque qui sont estampillés Disney. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas si c'est une marque...
Petite question, est-ce que tu as un ordre de prix pour votre séjour, je ne sais pas, la nuit à peu près ou...
On avait eu 3 nuits à 400 euros à peu près.
400 euros avec ou sans les entrées de parc?
Ah non, c'était sur Booking. Donc,
Sur Booking, t'as réservé toi?
Oui.
Et même sur Booking, c'était moins cher que sur le site du parc.
Quand t'as payé 400 euros.
3 nuits.
Pour 3 nuits, pour 2.
Pour 2.
C'est que dalle.
C'est que dalle du tout là.
Ouais.
Parce que ça, c'est le prix d'une nuit chez nous dans un Newport Bay Club. Aïe, 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 ça fait mal.
Et sachant que nous, c'était le Ibis à Hong Kong, c'était 120 euros la nuit.
Oui, c'est-à-dire que les hôtels en centre-ville étaient plus chers que les hôtels à Disney.
Et sachant que Disney fait exprès de faire ça pour ramener un maximum de gens dans leurs hôtels pour les
vendre. Ouais, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire qu'en grosso modo, si j'ai pas de conneries, t'en as eu pour 66-67 balles par personne par nuit, quoi.
Ouais.
Pour un hôtel Disney qui est quand même avec le stand. Bon, alors par contre, oui, les restaurants et la bouffe restent chers, donc ils font la bascule là-dessus. Hein, mais...
C'est un peu comme Las Vegas. Les hôtels sont un peu chers, mais ils se rattrapent tout à côté. La logique est exactement la même. Et du coup, le petit déj, on retrouve les gaufres classiques des parcs Disney.
Mais sauf chez nous.
L'exception parisienne. Voilà. Donc,
ça fait mal.
Elles étaient bonnes. Hein,
oui, très très bonnes. En fait, c'est une petite formule où ils font gaufres, quelques fruits et des œufs brouillés.
Avec un petit jus.
Greg, et ça,
j'ai entendu œufs brouillés, c'est bon.
Ça y est.
Donc, oui, par contre, c'est pas du buffet, c'est vraiment. Ils te font
ça,
le plat.
Ça, c'était le food court, du coup, on prenait directement au comptoir.
C'était inclus? Ou c'était, tu payais, c'est combien le petit déj alors?
Non.
15, 20.
C'était 12 euros l'assiette 12 là qu'on voit, c'est 12 euros, oui, c'était 12 euros l'assiette.
Euros avec
pas excessif.
Je me rappelle, je crois que c'était un truc qui était similaire quand j'étais allé en Floride pour le coup. J'étais dans les hôtels bas de gamme, les All-Star où t'avais le food court et t'avais aussi ce genre de truc, il me semblait.
c'est la même logique. Hein,
on est au même prix quand même qu'un All-Star, mais à des années-lumière niveau qualité oui. de matériaux et de, d'ambiance.
T'es servi dans de la vaisselle, pas dans le carton comme à Disney World.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Faut les couverts aussi sont... Enfin bref, tu es servi comme si tu mangeais à table normalement, tout simplement.
Oh,
petit-déj.
Bon.
Donc on reprend notre visite, ça serait bien qu'on ait quand même le parc, ça serait bien, non ?
Le parc, enfin je veux dire les parcs, mais non, il y en a toujours
un. Il y en a un seul.
Il y en a toujours qu'un, et là cette fois-ci on n'a pas un bus, mais on a un autocar. Faut pas chercher à comprendre avec Hong Kong, hein, des fois les bus, c'est au petit bout dans la chance.
Bah vu qu'il y en a qui sont en train de pourrir à côté, peut-être qu'ils ont pris ce qu'ils avaient de dispo, tu
ça
vois.
Ça se trouve avant t'avais des liaisons vers l'aéroport, et ils ont pris ceux-là, j'en sais rien. C'est possible. Donc on arrive, on avance, on passe du coup la grande arche, bien connue.
La grande arche qui est trop trop belle, ouais. qui donne sur une place énorme immense. Avec une très très belle fontaine.
Et aussi, un peu plus loin, tu as l'allée.
L'allée qui est le...
censé être le futur Disney Village.
Alors c'est très très drôle parce qu'en gros ça fait une allée qui est très très longue, qui te mène jusqu'aux hôtels, ouais. Qui est très très belle avec...
de l'audio, bah, des beaux lampadaires, des arbres
des
bien,
beaux lampadaires, des
bien
arbres,
taillés et tout.
Il y a des fontaines qui sont... en stand-by dissimulé, pour l'instant, qui sont dissimulés ouais. avec des buissons dedans ouais. pour l'instant, mais avec des belles mosaïques, des beaux carrelages ouais. et tout. Et en fait, bah, là où t'es censé avoir bah, les boutiques, les restaurants, c'est des buissons. Et derrière, et derrière les buissons, il n'y a rien.
Il n'y a rien. Et du coup, t'as juste toi qui es sous des arbres. Et quand tu tournes un peu tête sur le côté, tu fais, bah, il n'y a rien derrière. Okay.
Oui, oui, quand tu regardes à travers les buissons qui sont très épais. Attention, à Hong Kong, ouais. la végétation est très dense.
Bah, c'est tropical, donc voilà. tout de suite, ça pousse.
Tu regardes
fond,
sur
quoi.
Google, tu vois les terrains vagues autour, ouais, mais tu t'en rends pas trop compte quand t'es dedans. Ça passe encore.
Et quand on arrive devant l'entrée du parc, il y a une de fontaine qui
une
est
magnifique
grandiose.
Fontaine. Ouais, avec Mickey qui fait du surf sur le jet éjecté d'une baleine très choupie, avec un système en fait qui dissimule
le bras de maintien.
Le bras qui soutient.
Chaque personnage a sa propre fontaine. Évidemment, Donald est en mauvaise posture.
Il est en train de couler avec son bateau.
voilà.
Coup classique. Hein,
mais voilà, il y a plein de petits détails comme ça. Et c'est propre, tous les parcs asiatiques. Il y a énormément de jolis ornements comme ça, à droite à gauche.
On est arrivé sur le parc. On est sur nos deux jours. Il y a une journée, on ne l'a pas fait exprès. C'était le 18e anniversaire du parc.
Oh!
Ah. Donc, ils donnaient bien sûr des badges à tout le monde. À l'entrée.
Pas des stickers.
Non, des
pas
pins.
Un petit carton dégueulasse.
Non, des vrais pins.
Un
tout
badge.
Le monde.
Okay.
À tout le monde.
À tout le monde.
Trop bien.
Après, c'était la seule chose qui était faite quand même pour l'anniversaire. Faut quand même recaser les choses.
Ouais. Oui, mais c'est un anniversaire intermédiaire. C'est pas les 20 ans, c'est pas les 25 ans, tu vois.
Voilà, c'est ça.
En fait, c'est pas les 15 ans. Il y avait aussi un événement press event pour la presse où ils présentaient Frozen Land.
On en reviendra plus tard.
Bon, on en reviendra après. Alors, pour vous, juste sur l'entrée, c'est la copie de Disneyland.
Oui,
en Californie.
Le Street,
avec le train, oui. Avec la gare au-dessus.
Il y a même trois petites variantes quand même. Oui, j'ai remarqué qu'il y avait une espèce d'arcade à un moment. Enfin, pas une arcade, mais un truc qui s'appelle arcade quelque chose, qui est un peu en verre. Ça fait presque Hull parisienne à un moment.
En fait, c'est une verrière qui a été rajoutée ouais. pour qu'il y ait une continuité dans la boutique principale et que les gens ne ressortent pas dehors, etc. Et que du coup, ils restent dans un seul et même bâtiment. En fait, il faut dire que la partie gauche de Main Street, c'est un seul bâtiment qui est qu'une seule boutique.
Et dans mes souvenirs, tout est pavé là-bas aussi.
Oui.
Truc qu'on n'a pas aux États-Unis.
Qui est pas, comme c'est dit. Après, c'est un pavage qui est moins bien fait parce que vu que tout est plus petit, ils ne peuvent pas faire de courbe avec les pavés.
Ouais.
Donc c'est une ligne droite, une frise qui coupe, une ligne droite, oui. une frise qui coupe.
Ok.
C'est le sol bon. Est quand même différent, mais
c'est du détail.
Ça reste pavé, c'est quand même plus qualitatif.
C'est très joli.
Et surtout, on a ce nouveau château.
Ce château qui est quand même, du coup, au moins deux fois plus grand que l'original, qui est d'ailleurs toujours conservé à sa base.
C'est toujours dedans.
Si vous regardez le visuel. En fait, vraiment, ça part de cette base du château qui était une copie du château de Californie,
oui.
qui était pour moi une idée complètement débile. Mais il y avait un côté, oh, ça rend hommage. Et de l'autre côté, c'est pas trop cher à faire.
Bien
parce
sûr.
Que faut savoir que ce parc-là, il a été sorti en 2005, et donc c'est à peu près la même période de conception que les studios à nous, si tu veux.
Et que
donc
Disney California Adventure.
C'était voilà. C'est la fin de la période de Michael Eisner après Frank Wells. Donc c'était l'époque dans laquelle il fallait être ultra, ultra rigoureux sur les coûts, etc.
C'est la période où il a dû se plancher sur les comptes et s'est dit, ah, ça coûte cher tout ça.
L'argent, ça coûte cher.
Et en même temps, le pire, c'est qu'ils peuvent arriver à le justifier d'une certaine façon, parce que c'est vrai que Tokyo avait déjà eu un château qui était copie conforme de celui de Floride. Donc en fin de compte, faire des copies conformes de châteaux, c'était pas une nouveauté non plus.
Ouais, mais là, il y avait le choix de ce château-là. Ok, c'est cool pour l'hommage. Ok, c'est cool, ça coûte pas trop cher. Mais en fait, il est complètement écrasé parce que, comme on vous l'a dit, ouais, la végétation, montagnes les montagnes, les collines qui entourent le parc l'écrasaient complètement. Parce ce qui que fait la... qu'il paraissait encore plus ridicule qu'en
Californie.
Parce
qu'il faut bien penser que c'est que la plus haute tour était en dessous visuellement que la montagne derrière. Ouais. Avec la montagne, même, elle était plus haute que le château, même quand on était au bout de Main Street.
Mais même le château de Californie en lui-même, déjà, enfin, même en Californie sans les montagnes derrière, tu te dis, mais bordel de merde, qui a foutu un coup de pinceau sur le.
Le problème de la Californie, c'est que les arbres, ils ont 60 balais. Donc forcément, ils sont immenses et le château est à côté, ça paraît ridicule.
En plus, t'as le Matterhorn juste à côté du château, donc là, voilà, t'as plein de
trucs. Il est pas dessus dans le champ de vision, donc en fait.
Non, mais quand t'es sur le Central Plaza, tu vois, tu
vois qu'il y a un Matterhorn à côté.
Donc pour revenir à la création. La période de création du château, c'est vraiment pas beaucoup d'attractions et surtout des files d'attente qui sont parfois un peu dégueulasses.
Oui, c'était parc à Beland.
Bon, on retrouve l'esprit des studios. Hein.
Mais ça reste très propre dans l'ensemble. Oui. Même si c'est vide, c'est très très propre et il y a des petites finitions qui sont assez intéressantes. Là maintenant, le château est beaucoup mieux. Tu me dis qu'il y a carrément des estrades. C'est quoi, ça descend un peu?
Ça descend un petit peu et en fait, il y a une scène devant qui leur permet de faire des spectacles qu'ils n'avaient pas avant. Donc,
c'est ça.
Une sorte de théâtre du château, mais bien placé.
Tu peux pas passer sous le château?
Si. Tu fais comme Disney World, tu vas sur le côté,
tu contournes
la scène.
D'accord, parce que de mon temps, tu avais un hub et ensuite tu avais une grande place vide devant le château et c'était vraiment le néant.
Bah justement, la grande place vide dans le château,
a été transformée en cette scène avec les petites douves et les espaces qui descendent pour que ça permette d'avoir pas mal de monde.
Anecdote drôle, dans les douves, il y a des petits crabes qui nagent.
Oh, c'est très mignon.
On a vu ça, je fais pardon, on a bugué.
C'est un peu normal là-bas, j'ai envie de te dire.
Oui, enfin.
C'est peut-être pas volontaire.
Dans une eau colorée bleue, bah, un petit crabe, c'est quand même bizarre.
En fait, tu as plein de petits ports de pêche. Alors là, je parle de la zone de Hong Kong autour, des vieux ports de pêche. Et en fait, les bestioles là, si vous voulez, elles se déplacent, elles vont même dans les piscines de certains hôtels, des trucs comme ça. Donc tu peux rien y faire. Et puis bon, ça donne de la vie, j'ai envie de dire.
On tourne sur la gauche et rentre à Aventureland.
Ouais.
Et Aventureland, c'est un land qui est surtout fait pour la nuit, je trouve. Il est parfait parce qu'avec le climat,
la végétation est exotique là-bas.
Parfaite, quoi.
Donc c'est un peu con de dire on va faire un land exotique dans un pays qui est en fait est pour nous et pour Disney en général.
C'était la période où ils se sont dit quand même, vas-y, on va faire un parc d'attractions sur la Californie en Californie. Tu vois, bon, c'est pas la dernière fois, c'est pas la première fois non plus.
Hein, c'est vrai que c'est superbe, c'est vraiment très très.
Mais ça rend très bien là.
De nuit, c'est encore mieux. Pareil pour.
Sans compter que là, Aventureland, si donc sur la photo que t'avais montré effectivement avec les lampions, ils ont apporté de la couleur. Alors que généralement dans les Adventureland, tu as le côté végétation et lampe un peu au fioul,
éclairage,
un truc, torche, voilà, torche, etc.
Alors
donc
que là, il est très coloré, même les espaces de jeux aquatiques pour les enfants sont intégrés, où il y a des diffuseurs de brume et tout ça.
Même les lumières sur les végétations, là, regarde, à l'arrière, on voit ces rougeâtres, etc. Ils apportent ça apporte un volume énorme, quoi, c'est très bien.
Et surtout, il y a un Jungle Cruise que moi je trouve, mais. Pour moi, c'est le meilleur de tous les parcs Disney. Mm-hmm.
C'est celui qui se termine
avec le feu et l'eau
qui pète un câble.
Exactement.
Avec le geyser qui t'empêche de passer.
T'as le skipper qui envoie une grenade et ça tue le requin.
Est-ce qu'il y a du mapping aussi dans un temple à un moment?
Non, ça c'est à Tokyo.
Ok, je confonds.
Mais du coup, on traverse déjà un parc à bœufs parce que, comme on a dit, les bases de Hong Kong, c'était parc à bœufs land.
Voilà, donc vous avez l'impression d'être dans la file d'attente de feu Rock'n'Roller Coaster chez nous, quoi. C'est vraiment des barrières en métal. Bon, là,
c'est aimé. C'est vachement bien aimé, c'est très joli.
La plus dégueulasse, c'est Space Mountain, mais on y reviendra plus tard. Peut-être que ça a changé.
Ah bah, disons que Eurosat avant qu'en Conquistor était mieux aimé que la file d'attente de Space Mountain là-bas. Quoi, donc
Alors déjà, la principale différence de ce Jungle Cruise par rapport aux autres, il est très large. Les allées sont très très larges.
Les couloirs de circulation sont larges.
T'es vraiment dans une rivière. Quoi.
Exactement. Oui. Et plus tu avances, en fait, plus ça rétrécit jusqu'au moment où justement on est pris dans les geysers. On retrouve du coup les grands classiques, c'est-à-dire les éléphants. on retrouve les...
Alors, il y a un temple où il y a des grosses toiles d'araignées. Et en fait, ces araignées-là, elles existent pour de vrai, en fait, ouais. dans la zone de Hong Kong. Elles sont pas aussi grosses que les fausses qu'on voit là ouais. sur l'illustré. Mais nous, pour avoir été dans des coins un petit peu plus reculés dans la zone de Hong Kong, tu as vraiment des monstres sur les bords des routes qui sont grands comme ta main, quoi.
Oh, jamais d'avis.
Migal, quoi. Voilà. Comme ça. Donc, c'est pas surprenant d'en voir là. Si ouais. C'est pour eux, pour les locaux, ils disent, ouais, c'est, bon, ouais, ça, on a l'habitude.
C'est normal, quoi.
Pour nous, c'est genre, oh mon Dieu.
Et petit truc sympa, en fait, on peut se mettre au milieu un califourchon sur la banquette du milieu, ce qui fait qu'en fait, on est face au skipper, en fait. Non, on n'est pas soit d'un côté, soit de l'autre. On a vraiment vu vers l'avant, en fait. C'est très agréable.
Et ils ont toujours gardé, il me semble, certaines scènes.
Avec des tribus un peu primitives.
Oui, ça, ils les ont gardés, c'est sûr. Mais surtout, ce que l'on a, c'est le. Et voilà, le rhinocéros qui met un petit coup de corne au.
Oui, sur le. Voilà. Pour le forcer à monter. Oui, pour
les explorateurs qui sont tous sur un arbre.
C'est ça. C'est donc ça. Toujours la V1, pas la V2.
Ça, c'est un gag qui a été repris
par Nick Leland.
Partout.
Ouais.
C'est ça. Et du coup, on passe avec les trucs des tribus. Cette scène, je la trouve très bien faite parce qu'au début, tu les vois vraiment pas. Avec toutes les...
Tu vois des boucliers, ouais.
Tu vois des boucliers, mais tu vois pas les personnages. Et plus tu avances, plus en fait tu les vois par la suite. Là, tu dis, ah ouais, l'effet était très bien travaillé.
Mais il me semble est-ce que ça bouge ou pas? Est-ce qu'il y a pas des bonhommes qui, justement, les personnages qui se penchent un peu? Oui, si, regarde, il y a du mouvement. Tu vois, ils se penchent à l'extérieur des boucliers.
Ils se penchent aussi, oui.
Et tu as des sarbacanes, en fait, qui font des petits jets de fumée. Avec les bruitages et du coup de la flotte qui ricoche au pied du bateau.
Des petites explosions dans la flotte. Très malin.
Qui marche bien. Ça.
Mais là, moi, je suis désolé de vous interrompre là-dessus, mais moi, ce que je trouve avec cette jungle cruise qui est géniale, franchement, là, j'ai vraiment l'impression d'être dans la jungle.
Mais tu es dans la jungle.
Dans une vraie jungle, pas maîtrisée. Là, ça a été construit. C'est ça ce que je veux dire.
Quand tu vois les autres du Gold Cruise, vu que tu fais que des allers-retours et que là, tu passes sur la rivière d'à côté, etc., tu vois pas que c'est juste une rangée de bambous pour cacher la rivière que tu as passé juste après.
Et là, ce qui est trop trop bien, c'est que tu arrives dans une zone avec plein de formations rocheuses et le chemin évident devant toi, il y a un geyser énorme. En fait, l'eau, elle commence à faire des grosses vagues et donc tu peux pas circuler. Et ça nous fait passer devant un temple creusé dans la roche avec une caverne.
C'est magnifique.
Et tout. Et là, t'as un effet à la fois de feu, de fumée,
et
de flotte projetée.
Te prend aussi.
Des effets sonores très très lourds. C'est trop trop bien.
Et en fait. Tout commence à prendre feu.
C'est Studio Barge Tour, en fait.
Oui, mais tu vois, dans un Jungle Cruise, c'est le seul au monde qui a ça, quoi.
Ouais, puis ça marche super bien, quoi.
Ah, c'est très entretenu. Même les animaux, t'as pas un animal qui est.
Avec le propane sur la flotte,
qui est sale.
En plus. Très bien.
Avec l'eau et tout. Et nous, la première fois qu'on l'avait fait, en sortie de cette scène, on avait encore plus de fumée. Et surtout, on s'est dit, oh, ils ont rajouté un effet. Il y a des murs d'eau qui continuent après l'explosion d'eau dans la caverne et tout. Non, il pleuvait vraiment.
Une énorme averse.
La leçon. Voilà.
Et vraiment, on s'est dit, mais comment on va faire pour me sortir de là? On ne savait pas, mais genre, quand on dit il pleut comme une vache qui pisse, c'était exactement ça, quoi. On mouillait jusqu'à l'os dès que tu mettais le petit doigt dehors, quoi.
Il pleut comme zèbre qui pisse, du coup.
Il pleut, oui.
Pour faire couleur locale.
Non, franchement, ce Jungle Cruise, il est très très bien.
Il a l'air bien. Tu vois, ça, c'est con parce que je suis pas attiré par les réactions d'Adventureland en général. Et pourtant, là, ce Jungle Cruise-là, il m'attire.
Est-ce que dans le land, il y a aussi un arbre des Robinson, non?
Oui, mais il faut aller sur une île.
Ouais, il faut aller sur une île.
Et c'est l'arbre de Tarzan.
Et tu peux soit. Alors, il me semble que t'as un bateau où il faut qu'on. T'as une espèce de navette.
C'est comme sur Tom Sawyer Island à l'origine. Je crois que tu avais un système comme ça, un bac à câble, enfin un corde, si je dis pas de conneries.
Non, là t'as pas parce que t'as le Jungle Cruise qui passe devant à chaque fois.
Ah oui, d'accord.
Et donc moi, quand j'y suis allé, il était en réhab.
En bambou, oui.
Mais ce n'était pas dérangeant parce que justement, en fait, à Hong Kong, ils ont des bambous en Chine en général, etc. Ils prennent. Des gros morceaux de bambou pour faire les échafaudages, ce qui fait que l'arbre des Robinson était entouré d'échafaudages en bambou, mais du coup c'était pas choquant, t'avais juste l'impression que c'est peut-être Robinson Crusoe ou je ne sais qui, ou les Robinson Suisses qui sont en train de le réhabiliter, tu vois. C'était pas choquant, c'était trop drôle,
mais ça marche trop bien.
Et le Aventureland a aussi un show qui est le Festival du Roi Lion, comme il y a Animal Kingdom, qui nous était fermé à ce moment-là. Donc, on va continuer vers Grizzly Glutch, qui est le front
Grizzly Gulch.
Avec Big Grizzly Mountain.
Pas Glutch, mais Gulch.
Mais à partir de 11h. Parce qu'évidemment, cette zone est en ouverture défirée.
Ouais,
c'est-à-dire qu'en fait, le parc ouvre à 10h30, ce qui est déjà relativement tard. Et en plus, beaucoup de zones qui sont souvent à l'extérieur
toutes
du train.
Les zones à l'extérieur
du railroad. N'ouvrent qu'à 11h. Donc une demi-heure plus tard que le parc. Donc ça sert à rien de se précipiter vers Mystic Manor ou
Grizzly.
Ou Toy Story Playland.
Ça sera pas ouvert.
Ouais.
C'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'au début, on avait fait notre première attraction, ça a été le Jungle Cruise. Et quand on l'a fait, on fait c'est génial.
Mais de toute façon, il n'y a personne.
De toute façon, il n'y a personne.
La question ne se pose pas, quoi. Donc.
Alors moi, quand j'y étais allé, Grizzly Gulch, Mystic Manor et Toy Story, ça faisait un an que c'était ouvert. Il y avait peu de végétation. Donc est-ce qu'aujourd'hui ça rend bien?
Alors aujourd'hui ça rend bien, surtout que je trouve magnifique ce Big Grizzly Mountain Runaway Minecart.
Ouais.
Pour ouais, ne que dire que ça, hein, parce que
il fait beaucoup d'aller et venu à la fois en marche avant, marche arrière.
En fait, pour moi c'est une expédition Everest, mais juste la première partie avant la grande remontée. C'est-à-dire que c'est que la partie fun,
il est à plat,
d'une douce vitesse à plat. Et
où, en fait, les passages, les allées en fait, du land circulent dans le parcours.
Exactement.
C'est-à-dire que c'est à la fois devant toi, derrière toi, en dessous de toi,
des
parce qu'il y a
ponts,
des
ponts
au-dessus. Ouais, enfin, c'est vraiment ce qui est...
Du coup, ça intègre parfaitement dans le land.
Oui.
Quoi.
Et puis, enfin,
en fait,
le land,
land
est construit...
c'est l'attraction, en fait.
Voilà, c'est ça. Ouais. Le land est construit autour de l'attraction. Tu as peut-être une grande zone où tu as des bâtiments et une autre avec des aires de jeu
aquatique
beaucoup sur la flotte parce que t'as des espèces de ruines avec des petits geysers,
une ancienne caserne où tu peux tirer au pistolet en face et que ça fait des pistolets d'eau en fait ou alors un petit camp avec un geyser et une tour de un château d'eau qui se renverse de temps en temps.
Ouais.
T'as des trucs comme ça qui sont aménagés dans ce land et qui franchement ça rend bien et quand il fait chaud je comprends tout à fait la nécessité de ce truc là
après coup, on est sur une ressucée de Frontierland pour le coup pour le design général du land mais
un peu plus cartoonesque
avec ce côté plutôt cartoon et
plus
bien plus intégré autour même du coaster alors que Big Thunder Mountain lui était arrivé bien après l'ouverture de Frontierland en Californie dans les concepts initiaux.
Ici on n'a pas BTM du coup on a BGM.
En parlant
coup,
de musique,
si
de,
musique
en parlant de musique d'ailleurs un peu de
la BGM de BGM
la musique non mais la musique de les musiques d'ambiance un petit peu que vous entendiez sur tous les lands, qu'est-ce que ça donne?
Écoute, ici il y avait une musique qui arrêtait pas de chanter Alléluia.
Ah merde.
Ouais, bon bah on ne notera pas BGM pour sa BGM.
C'est pas celle qui est dans Malcolm avec le Commodo Tramé, ça fait Alléluia, Alléluia.
Si, si.
Ouais, ok, bah c'est celle-là, ok, si. Ça fait un peu western.
Oui, exactement, ça fait western. Bon, non, mais c'est un Frontierland-like sans l'être.
Ouais, on est dans l'esprit.
Voilà,
c'est
dans l'esprit, mais... parce que faut pas non plus que ça fasse trop américain. Parce qu'il y a quand même la Chine derrière, faut pas l'oublier.
Et là, on a vraiment le coaster Vekoma nouvelle génération à l'expédition Everest.
Exactement.
Tout pareil, sauf qu'il n'y a pas de locomotive.
Il n'y a pas de 0K.
Il est d'une fluidité, mais.
Oui, il est vraiment sympa.
Magnifique.
Après, attention, vous attendez pas des sensations de fou.
Non, non.
C'est très, très, très familial.
Le public asiatique n'aime pas les gros coasters, les grandes sensations fortes, ce qui fait que les gens ne vont jamais à Space, parce que Space, c'est en intérieur, c'est dans le noir. Mmh. Ils ne savent pas quelle sauce ils vont être manger, donc ils ne le font pas.
Mais c'est aimé. Partout,
oui.
Le moindre lift est aimé. Ici, en gros, on est dans une mine qui a été envahie par les ours.
Et les ours se grattent le cul et après
sur les aiguillages.
Ça change l'aiguillage.
Ça change l'aiguillage et on part en zizanie.
Et on part
en zizanie, donc ça part en marche avant. Tu te promènes entre les geysers, la végétation.
Ah ça, il aurait foutu la drop de Expedition Everest. Là, t'aurais perdu, t'aurais des infarctus en voiture voilà.
Personne ne rentrerait déjà dans l'attraction là-bas. Mais
la végétation, elle est super.
La végétation, elle est très très bien intégrée.
Et ils ont mis de la pinède, donc on n'est pas dans la jungle d'Adventureland, c'est-à-dire la végétation normale pour la zone.
Avec des feuilles grasses et tout ça, non, du tout. C'est...
Non, là, ça marche vachement bien. Et tu as
là,
ce
le
lift,
même gag. Okay.
Ce lift qui est trop trop cool parce que tu vois le système qui te tracte en haut de la montée et on voit pas en fait où est-ce que le lift
va t'emmener en fait.
Débouche. Et en fait, tu as le moteur qui active une roue avec un câble dessus et en fait le câble lâche, bon évidemment c'est un effet spécial, tu vois le câble se tendre en l'air comme ça sur la roue et tu fais du coup la chute en marche arrière
et partie de circuit
il y a eu un transfert track qui s'est fait derrière toi pendant le lift
c'est ça. Et ce qui est impressionnant c'est qu'effectivement le transfert track, le truc est continu, il n'y a pas d'arrêt pendant que le transfert track s'active.
Oui, il n'y a pas l'arrêt comme Expédition Everest.
Exact, ouais. C'est un effet qui est vachement impressionnant parce que quand tu remarques pas, enfin tu dis bon il y a un aiguillage et tout, première fois que tu fais Expedition Everest lui-même déjà, c'est assez impressionnant de te dire putain, il n'y a pas eu d'arrêt.
Oui,
donc,
oui bien sûr. Mais tout reste toujours au ras du sol et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que même si tu vas pas forcément vite, tu as cette impression de vitesse.
Et puis là tu as un dernier
dernière
section en fait tu rentres en marche arrière dans un shaft de mine, en fait, dans un tunnel, et puis tu vois
maman ours qui appuie sur la dynamite.
Et c'est ouais, et puis voilà, ça appuie sur le truc de TNT qui fait exploser, du coup te propulse en dehors de ce tunnel là en marche avant, et là, pour finir le parcours jusqu'à la gare.
Et là je pense que tu dois te taper la Vmax de la machine, quoi, pour le coup.
Ouais, ouais, qui mais doit être de 50-60, une connerie comme alors ça.
Ouais, par contre, t'as beaucoup d'edge chopper déjà avec les arbres, les trucs, etc. Donc l'impression de vitesse doit quand même être pas dégueulasse à bord du truc.
L'impression de vitesse, elle est là, et malgré tout, la catapulte, elle est pas mal. Hein. Moi, j'ai été surpris de la catapulte, et surtout, tu pars à plat. C'est pas une catapulte. Ouais. Tu peux être en légère descente, comme on peut avoir dans Expédition Everest, où tu es stoppé, t'as la projection du Yeti qui arrache les rails, après t'es relâché.
Ça lâche, ouais.
C'est pas le cas. Donc, c'est... L'impression de vitesse, elle est d'autant plus forte parce que du coup, t'es vraiment entraîné par la machine.
Et ah en ouais. plus, la machine ne vibre pas du tout, c'est très agréable, c'est on glisse littéralement.
Ouais, c'est très agréable. 56 km/h à la vitesse de pointe, on est sur un parcours qui fait un peu plus d'un kilomètre.
C'est pas mal. Mais du coup, ce qui est bien, parce que c'est long, parce qu'il va pas très vite, donc il te récompense.
T'as le temps de profiter du rail, de rouler.
La file d'attente, elle est assez longue. Hein.
C'est terrible de dire que
elle est assez longue parce qu'en fait,
t'es pas du tout écrasé comme chez nous à BTM.
Et c'est dingue quand même de se dire qu'on est dans un parc Disney dans lequel la file d'attente est plus courte que le rail dans lui-même, alors que c'est un coaster. C'est quand même impressionnant.
En fait, je voulais rebondir sur la file longue parce qu'en fait, les opérations dans cette attraction sont très très longues.
Oh oui.
Ça n'avance pas.
Les employés qui étaient le moins motivés au monde, c'était là-dedans.
En fait, je pense qu'ils ont été formés à Six Flags.
Mais ils viennent de commencer leur journée alors que les autres sont déjà chauds, ils ont tourné une demi-heure plus tôt.
Oui, c'est réellement.
Bien sûr.
J'imagine pas quand il y a beaucoup de monde, c'est très compliqué. Les opérations sur uniquement cette attraction-là.
Moi, je me souviens, on avait attendu effectivement 15 minutes et pourtant ça tournait à 3-4 trains et c'était long parce que vraiment les gens ils chipotaient. Enfin bref, après c'est aussi la discipline de certaines.
Il y a des problèmes de discipline, mais là c'était vraiment les employés.
Les employés.
En plus, ils avaient mis des
supports
en plastique pour tirer sur les harnais, comme ça ils ont encore moins à se pencher. Et malgré tout, c'était j'arrive et je touche à peine le truc et je marche à 2 à l'heure, quoi.
Ok, bon, petit bémol.
On enchaîne avec Mystic Manor.
Ouais.
Attends, tu veux dire qu'on est à Mystic Point déjà ?
Exactement.
Parce que c'est vrai que le land de Grizzly, même s'il est assez étalé sur la longueur,
en réalité, il est assez.
Il n'y a pas grand chose à faire.
Ça. Il y a un petit comptoir en extérieur et une aire de jeu aquatique. Hein, ouais. Donc,
et Mystic Point, avant de faire Mystic Manor, il faut absolument faire ce qui est considéré comme une attraction, les effets d'optique dans la petite forêt juste en face du manoir. Est-ce que tu les as fait ?
Oui, on les a vus.
C'est tout pété. Mais bon, c'est marrant, ils ont tellement peu d'attractions qu'ils le mettent sur le plan comme étant une attraction. Alors que bon.
Tu sais, les Walt Disney Studios au début.
Oui, Studio 1 était une attraction dans les premiers plans.
Oui, c'est vrai. Et Mystic Manor, qui est quand même la grosse claque que tu te prends pour un Dark Ride Trackless. Qui est du coup date de 2013 aussi. Et vous dites que ce truc-là. A été fait avant Ratatouille. Comment on a pu faire Ratatouille après ça, quoi ? Enfin bref.
Oui.
Déjà, le manoir en soi qui est magnifique, qui s'inspire de la Winchester House qu'on peut visiter à Los Angeles, qui est en gros la maison qui avait été laissée par le créateur de la carabine, etc., des flingues Winchester, à sa veuve. Et en fait, il avait conçu plein de pièges à l'intérieur. Et il y avait beaucoup de dédales, de couloirs, une architecture très bizarre. Elle existe toujours.
D'accord.
Et en fait, c'est ça qui a inspiré le design du manoir.
Et c'est une sorte de petite expo, la file d'attente, et évidemment des portraits du collectionneur.
Du collectionneur et de tous les autres explorateurs. Et
du Explorers Club.
Ouais. Et tu peux retrouver du coup la capitaine sur les bateaux de Disney Cruise Line, par exemple.
Ouais, et tu as aussi Harrison Hightower.
Exactement.
D'ailleurs, quand tu rentres, il me semble, avant le pré-show, tu as une petite photo où tu les vois tous sur un même cliché. Oui. Et tu as Walt et son frère.
Et Roy.
Qui sont à l'époque où il a ouvert son studio.
Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un petit clin d'œil au compositeur, puisque Danny Elfman a composé la musique d'attraction. Il a également un des explorateurs qui a également sa gueule, en fait.
Sa gueule, ouais, avec des lunettes. Cheveux courts un peu roux.
On le voyait tout à l'heure dans la file d'attente, fond violet, si je dis pas de conneries.
Et du coup, après, on rentre dans un
pré-show.
Dans un pré-show, oui, je cherchais un nom de la salle, mais. Une salle de projection, on va dire ça comme ça.
Enfin, avec des diapositives.
Oui, voilà, de diapositives où tu découvres à la fois le manoir, en quoi c'est un lieu de visite du collectionneur, et aussi le petit singe.
Albert.
Albert. Et qui. vient, va et vient, et du coup, ils te disent que
l'animatronique qui sort juste devant, l'écran de projection. Et l'animatronique est très très mignon, très fluide.
Et du coup, ils te disent, avec les expéditions qu'ils ont eues, bah, en fait, ils ont apporté des artefacts, dont une boîte à musique, où elle peut receler une forte magie, mais pour l'instant, elle est rangée, et t'as le petit singe qui, du coup, se dit, tiens, on me dit que c'est magique et tout ça, je vais sortir, moi aussi. Je veux appuyer sur le bouton de la boîte à musique.
Enfin, toucher le diamant qui ouvre la boîte à musique. Qui est un peu genre boîte à musique de Pandore, quoi.
Oui, exactement, c'est ça. C'est un Jumanji musique. Mais ça fait un peu ça, la boîte. et du coup, l'explorer dit, mais non, allez, rentre, c'est bon. Et il dit, bah, bienvenue au Mystic Manor. Vous allez commencer la visite du manoir pour découvrir ma collection.
Dans des véhicules qui ont été créés pour la visite. Exactement. Et donc ils sont aimés. En fait, on va dans une espèce de quai de débarquement pour les camions qui rapportent justement les artefacts qu'il a ramenés de ses expéditions.
Et du coup, quand on rentre dans le véhicule, c'est des véhicules qui sont de fait pour deux rangées de deux. Quatre personnes, du coup. S'il y a des enfants très bas âge, tu peux en mettre du coup une troisième personne. Les mouvements sont sympas. Quand on part, on arrive dans une première pièce où on retrouve les deux protagonistes qu'on a eu notamment dans le pré-show, c'est-à-dire l'explorateur avec du coup le petit singe Albert. Et on rentre du coup dans une première salle où le petit singe se dit « Tiens, j'ai accès à la boîte. Et si j'appuie dessus ?»
Sachant que le propriétaire vient de lui dire de ne pas y toucher.
Bien entendu.
Et évidemment, sinon c'est
Ça, c'est un foutu singe, là.
Something goes wrong, hein. Mais avec un effet qui est magnifique, puisque dans le temps de l'écran noir, on a des surfaces de projection qui sont descendues devant les trains, si j'ai pas de conneries, qui permettent de projeter des lasers.
Alors, pas encore. Ça, c'est pas plus vers la fin. Dès qu'on est dans l'obscurité, alors c'est un effet qui est incroyable.
C'est des fibres transparentes.
Comme des moustiquaires
lasers.
En fait. C'est ça. C'est des moustiquaires qui en fait tombent du plafond un peu au-dessus de vous, mais vous en rendez pas compte dans l'obscurité. Et en fait, les lasers sont projetés dessus, donc t'as vraiment des étoiles qui circulent autour de toi. C'est trop bien.
Ça fait un effet
qui
tourne autour de toi.
Et du coup, tu as tous les artefacts qui commencent à s'activer. T'as un petit dragon, t'as les tenues de chevalier, et ensuite on enchaîne avec la music room où là t'as tous les instruments qui commencent à jouer la mélodie de Danny Elfman.
Avec les mappings qui sont tellement bien intégrés.
Il y a une sorte de laser qui vient animer chacun des éléments
en fait,
un par
plus
un.
Plus on avance dans le musée, plus les lasers qui sont en fait la magie qui est sortie de la boîte de musique continuent à animer tous les artefacts de l'explorateur qui sont du coup exposés.
Et qui justifient le déclenchement des effets du coup.
Moi, c'est la méduse, mon effet préféré.
Quand elle se transforme.
Une mosaïque avec une fille toute mignonne, un peu Grèce antique. Et puis, elle passe en lumière noire et t'as vraiment des trucs, ses cheveux qui se transforment en serpents, qui sortent du cadre légèrement. Mais c'est juste suffisant pour te saisir, en fait. Et t'as tout ce qu'il faut de légèrement. Alors, c'est pas macabre, parce que c'est pas autour de la mort. Ils ont un rapport un peu différent de nous.
Ils peuvent pas mettre les fantômes dans une attraction chinoise. C'est vraiment, vraiment proscrit.
Donc, c'est plus le côté inquiétant, mystique du truc, d'où le nom du manoir. Et on passe à travers plein de scènes. Et il y a beaucoup de scènes qui font penser à Symbolica dans « Ah bah tiens, c'est marrant, il y a un miroir là qui reflète le truc. »
Surtout Symbolica qui a pompé là-dessus, il faut le dire, clairement.
Oui, bien sûr, c'est
l'inspiration. Le véhicule se ressemble.
Mais c'est pas la même chose,
étrangement. Les véhicules se ressemblent très, très étrangement. Après, il y a une pièce où il y a deux circuits. Donc, ils ont fait ça où il y a deux petits circuits. C'est assez
sympa. Avec l'armurerie, oui.
Avec l'armurerie, exactement.
L'armurerie qui sert aussi à reprendre le concept des bustes chantants, puisqu'il n'y avait pas ce truc-là. Donc là, ils ont les casques qui chantent. Et on reprend l'idée. En fait, c'est simple. On reprend les idées de base de Phantom Manor, Haunted Mansion, et on les respin en enlevant le côté fantomatique.
Avec un côté toujours inquiétant, des armes qui d'un coup pointent vers toi avant de vouloir éventuellement lâcher une flèche. Mais vraiment, on va de salle en salle. Les éléments s'activent. Quand on arrive dans la scène égyptienne, où du coup, t'as les cafards qui sortent en fait, du corps d'une momie, bien sûr, il n'y a rien de gore là-dedans, mais quand du coup, tout s'éteint, pour symboliser les cafards qui viennent sur toi, t'as des petits jets d'eau qui tombent du plafond. Comme si, du coup, ce sont des trucs qui tombent sur toi, c'est très saisissant. Jusqu'à arriver dans une scène tiki room, j'ai envie de dire.
Oui, écoute, ça fait partie du folklore, en fait.
Ouais, puisque l'explorateur a collectionné des objets tout autour du monde. On a la même chose sur Henry Hightower et puis la tour de la terreur japonaise. Du coup, on a un peu ce oui, même côté Capharnaüm dans la boiler room entre guillemets. Pour
exactement.
Eux,
mais... Et là, tu visites vraiment le musée où ça te dit en fait à chaque fois dans quelle partie du monde viennent les pièces. Là, c'est scandinave.
Coup,
là,
dès
c'est
que tu rentres dans une pièce, t'as un petit panneau qui te dit vous êtes rentré dans la partie Egypte, c'est de vous entrer dans la partie machin. Mmh. C'est vraiment très bien fait jusqu'à du coup la scène finale en fait d'une certaine manière. C'est celle où du coup le
avec le alors comment il s'appelle la divinité singe qui maîtrise le vent, mais en fait en gros c'est oui. Sangoku hein voilà enfin dans la légende Sangoku c'est ça était dans une pièce en fait où tous les murs sont mappés avec des grandes toiles etc. Et donc il va déclencher une tempête, donc il y a le vent qui souffle un petit peu partout, et le mur va finir par s'arracher devant
exactement.
Nous avec une profondeur de champ derrière, comme si on voit que l'extérieur c'est la tempête aussi. Et ça c'est super impressionnant
tu
quand
vois
ça
que
se déclenche.
Rise a repompé là-dessus.
C'était la première fois, je crois,
oui,
qu'ils utilisaient en réaction le coup du mur qui se défend.
Ouais, ouais.
C'est cette toute première fois et Rise a repris ce principe.
Ah ouais.
Et puis après on revient sur. La première scène,
oh, c'est tellement beau là.
Mais qui est une salle qui réplique la toute première
exactement.
Scène.
Et ouais. Du coup, toute la magie revient parce que le petit singe Albert referme la boîte à musique et du coup, tout se réallume.
Le propriétaire revient
et là,
il lui demande t'as touché à rien ?
Non, tout va bien.
J'espère que vous avez apprécié la visite. Allez, salut, bisous.
Exactement.
Et du coup, il nous a laissé en plan, ce vieux con. Les deux scènes finales, elles s'enchaînent tellement bien. Et dans la dernière salle, les étoiles, l'effet de vent, etc. Toute la magie qui rentre dans la boîte, ça marche tellement bien.
Et aussi, un truc qui accompagne énormément, c'est que la musique, plus on avance dans l'attraction, plus elle est prenante, elle est forte. À la fin, t'es comme dans une salle de cinéma, tellement en fait elle t'englobe, le son il te transporte et tout. C'est quelque chose qui a été extrêmement bien pensé, imaginé. Le seul reproche que je peux faire à cette attraction-là, c'est tout simplement sa programmation, parce qu'elle date du coup de 2013, si je me trompe pas. Mmh. C'est quand les véhicules s'arrêtent ou démarrent, c'est du tout ou rien, c'est que c'est d'un coup c'est limite c'est un coup sec,
le petit à coup
t'as pas de courbe de
c'est ça, il y a pas un démarrage ou un arrêt progressif.
Ça me dérange pas parce que ça fait penser à un Dark Ride classique, mais sauf que là les artifices autour de toi sont tellement démentiels que ça s'oublie.
En fait, il y aurait juste ça, elle serait parfaite. Mais tu vois à quoi ça tient. Non mais je veux dire juste pour dire à quoi ça tient, c'est...
Moi, je pense que c'est mon trackless préféré. En termes de, non seulement de storytelling, mais le charme aussi qu'il a, ça te marque, et la musique est trop bien, les effets. Et le pire dans tout ça, c'est que, c'est accessible à tout le monde. Tu vois, même le petit gamin, tu vois, Phantom Manor quand même, quand t'es gamin, t'as un peu un challenge, t'as un peu peur, etc. Là, t'as pas peur. Au contraire, il y a des trucs qui peuvent te surprendre, d'autres qui te font rigoler. Enfin, t'as vraiment un mix de tout. Ils ont réussi un équilibre superbe, quoi.
Ça fait pas peur du tout. Nous on l'a fait pas mal de fois et à la fin en fait ils nous ont carrément donné un petit diplôme d'explorateur qui est très très joli. Faut aussi, on n'a pas souligné aussi que les costumes des cast members sont magnifiques.
Oui, ils sont très très beaux.
Ils sont très très beaux. Les chemises des dames sont brodées. C'est vraiment très très beau, très
et
étudié. Tu termines
par la boutique aussi qui est toujours t'aimée.
Et exactement, une boutique qui est t'aimée. Alors c'est dommage, ça manque un petit peu de merch.
Sur l'attraction, puisque une fois de plus, il se base davantage sur les goodies Disney, Mickey et ses potes que sur le lore de l'attraction.
Voilà le
bien qu'il y ait quand même deux trois trucs.
Le petit diplôme qu'on a eu.
Attends, je vais le montrer. Je vais l'approcher de la caméra, voilà, pour que. Alors, vas-y, continue à parler parce que
c'est
mon ami.
Voilà, le petit diplôme qu'on a eu. Donc, c'était vraiment une petite attention, vraiment très très sympa de la part des castes.
Ouais.
Voilà, c'est ce genre de petit détail qui fait que Disney est magique,
tout,
quoi.
Il est magnifique, hein. Il est travaillé. Enfin, c'est
ouais, très, il y a de la dorure, il y a du relief.
C'est pas du papier A4.
Non.
C'est pas une impression sur une feuille classique terminée, quoi. C'est avec un petit mot en plus écrit derrière, avec un petit Mickey.
Une tête de Mickey.
Vraiment.
Précise une tête de Mickey. Parce qu'avec un Mickey chez nous, c'est pas la même.
C'est pas pareil.
Dégueulasse. Il a mis un Mickey sur notre diplôme.
Et donc, si on continue à marcher, on arrive sur Toy Story Playland, qui est quasiment le même que l'autre.
Quasiment une copie, sauf que la grosse différence, c'est qu'ils ont une vraie boutique, eux.
Pas une armoire déguisée en shop, ouais.
C'est ça. Ils ont quand même quelques petits éléments en plus dans le...
Ils ont RC Racer, en fait c'est les mêmes attractions.
C'est exactement les mêmes.
C'est pareil.
Par contre,
c'est le pack Intamin.
Ils ont un coin où t'as des jouets du jardin des jouets de Sid.
Donc tu as vraiment la tête du bébé sur ses
avec le bras araigné tout
ça. Ah ouais, franchement, ou le canard pèse.
C'est un peu de mauvais coup,
c'est un peu flippant, surtout la grosse tête de bébé là sur l'armature.
T'as aussi des petits kiosques, tu sais,
des snacks.
Tu dois avoir des goodies qui sont vendus dedans. Ou c'était par exemple un train en bois.
D'accord, oui,
c'est
le
train en bois,
le
jouet, mais en taille immense.
En taille immense, ou dedans, dans le wagon, tu avais du coup des jouets qui étaient présentés à l'achat.
Genre des petits stands, quoi.
Exactement. Mmh. T'as ces petits trucs-là en plus. Il y a du coup la vraie boutique, on va dire,
ils ont un bâtiment en dur, mode carton.
Mais bon, globalement, c'est sur la même chose, donc on va passer à la suite.
En plus aéré.
Oui, le land est beaucoup plus aéré. J'aurais cru qu'ils auraient laissé plus de bambou.
Il y en avait plein, moi.
Oui, mais il n'y a pas ce côté dense. T'es vraiment dans un lieu qui est très ouvert, en fait, sur leur land. Ce qui est assez déroutant parce que tout le reste du parc, c'est très chargé en nature. T'arrives là, c'est très ouvert et tu te dis, t'es censé être dans un jardin.
Mais c'est que des bambous. C'est-à-dire que t'as pas de gros arbres.
Mais t'es censé être dans un jardin. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'as même pas cet effet de masse de bambou par moment pour simuler un peu des herbes, tu vois.
C'est dommage parce que dans les assets
la pelouse, finalement.
Dans les assets que Disney a, justement, en plus, qu'ils auraient peut-être pu réutiliser, il fut un temps, ils avaient la scène Chérie, j'apprécie les gosses à Hollywood Studio et il y avait des herbes géantes et des trucs comme ça. C'est des trucs qui pourraient très bien se prêter à ça.
Attention, on n'est pas à la taille d'un insecte, on est à la taille
d'un jouet. Mais
des hautes herbes, mais on n'est pas non plus microscopique sous la pelouse.
Mais il y avait certainement des trucs un peu intermédiaires qu'ils auraient pu réutiliser dans l'idée, quoi, pour redonner un peu de volume caractéristique.
Mais bon.
On attend les barrières en Kennex et tout, je suppose. T'as toujours la même idée de ce côté-là.
Il n'y a rien d'exceptionnel. Ça reste très basique.
Paris
c'est des flat rides.
Paris a payé le développement de Hong Kong. Pour une fois, c'était dans ce sens-là. Et ils ont repris globalement la même chose. Le seul truc, c'est que ça a été mal vu qu'ils aient le Toy Story Parachute Drop. Parce que des Américains qui débarquent sur le continent asiatique, c'est moyen.
Oui, ça, ils l'ont pas, ça.
Et c'est parce que c'est mal passé là qu'ils ne l'ont pas à Shanghai.
Ah, oui, effectivement.
Et oui.
Ah, l'histoire.
Donc, si vous voulez suivre la suite de nos aventures sur Hong Kong Disneyland, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, parce que oui, dans le prochain épisode, on aura du Fantasyland, du Frozenland, on aura du Tomorrowland, l'Instant Gros, et bien plus encore. Donc, surtout, restez à l'écoute, et pour cela, rien de mieux, soyez abonnés. Aussi bien sur YouTube, sur Twitter, les réseaux sociaux, avec également toutes les plateformes d'écoute de podcasts tels que Deezer, Spotify et consorts. Et pour les plus puissants d'entre vous, il y a aussi la donation pour l'association Puissance Park, où l'argent perçu sera réinvesti automatiquement dans les équipements pour vous faire de meilleurs épisodes. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur Hong Kong Disneyland.